Je ressens que Dieu a été avec nous hein, tout au long de la fin de semaine. C'est vraiment riche. Merci pour ce temps de louange extraordinaire. Ça m'a vraiment transporté là. Et je pense que c'est... On va en parler tantôt un peu, mais il y a quelque chose de très riche, de très libérateur que Dieu donne à son Église. Et le Québec en a grandement besoin. Amen. Et cette joie, cette liberté d'adorer le Seigneur, d'être libéré de ces fausses adorations, tu sais, pour venir dans la présence de Dieu, vraiment le Québec en a grandement besoin. Offrons ces moments au Seigneur. Merci Seigneur d'être là avec nous. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette fin de semaine. Merci pour tous les projets que tu as en réserve pour nous. Seigneur, cette riche jeunesse ici devant moi, Seigneur venant de partout dans le monde, et Seigneur, tu nous as rassemblés ensemble pour nous parler, nous visiter, nous toucher. Et Seigneur, c'est une joie de pouvoir participer ensemble avec cette œuvre extraordinaire que tu fais. Dans le nom de Jésus, amen. OK, donc le projet, notre projet de vie, on est dedans. On a pris du temps pour explorer un peu le cheminement que Joseph a pris. Et hier soir, on a parlé justement de l'importance de prendre le chemin de restauration. Et même ce matin, vous avez dans votre méditation, regardez un peu l'angle interpersonnel, n'est-ce pas? Priez pour quelqu'un, peut-être une relation brisée, une rupture que vous avez peut-être connue avec un être cher. Et de prier vraiment que vous puissiez un jour vous prendre dans vos bras, n'est-ce pas? Et de pleurer sur l'épaule l'un de l'autre dans cette réconciliation. C'est une vision, je pense que Dieu nous met dans nos cœurs, hein, de cette vision de réconciliation. Et n'arrêtez pas de prier que Dieu puisse justement effectuer cette restauration-là. Et je crois que ça fait partie du projet de Dieu pour votre vie aussi. Donc, quel était le projet de Joseph? On voit ici... Dieu m'a envoyé devant vous, prochain dépôt, pour vous faire subsister sur la terre. Donc, il parle ici à ses frères, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a élevé au rang du père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Donc, Joseph nous donne ici un petit résumé de son projet de vie, n'est-ce pas? C'est un projet assez grandiose, non seulement de délivrer sa famille de la famine, mais aussi d'avoir cette influence internationale, n'est-ce pas? D'être un acteur si important dans un projet de sauvetage pour sa famille et pour toute la région, tous les pays aux alentours. Et c'était un projet que Dieu a orchestré du commencement à la fin. Mais ça prenait quand même, comme nous avons discuté ensemble, de la collaboration de Joseph, n'est-ce pas? Il fallait qu'il collabore avec Dieu tout au long de ce projet-là, qu'il ne perde pas courage, qu'il ne laisse pas place justement dans son cœur à l'amertume ou à la convoitise. Il fallait qu'il tienne ferme dans son projet. Et nous aussi, nous sommes appelés à participer dans le projet de Dieu pour notre vie. Et peut-être nous ne savons pas encore, et peut-être pour la majorité parmi vous, vous ne savez pas encore à quoi va aboutir ce projet-là de votre vie. Mais vous êtes dedans, là. Et Dieu est en train de préparer ce projet-là pour votre vie. Et l'important maintenant, et j'espère que vous recevez le message cette fin de semaine, mais soyons collaborateurs avec Dieu dans ce projet-là. Soyons à son écoute. Essayons d'alimenter ces promesses-là ou d'arroser les semences que Dieu a plantées dans votre vie pour que ça porte un fruit abondant pour lui. Donc, le jeune Joseph, on voit qu'il avait certaines pierres de fondation dans sa vie. On voit qu'il a cultivé jeune ce cœur réceptif à Dieu, n'est-ce pas? Dieu lui parlait, il avait toute une disposition spirituelle déjà implantée dans son cœur par Dieu, une ouverture spirituelle. Et moi, je constate que moi-même, j'avais cette grande réceptivité à Dieu, jeune, en tant qu'enfant. Ça ne venait pas de mes parents, je n'ai pas été élevé dans une famille chrétienne, mais j'avais cette soif de Dieu dans mon cœur, de façon incroyable. Et je sais que Dieu a planté cette soif-là dans mon cœur. Et c'est quelque chose que j'ai dû alimenter quand même, cette soif-là. J'ai dû répondre à la soif. J'ai dû quand même chercher de l'eau là pour combler cette soif-là que Dieu a mis dans mon cœur. Alors, il y avait des promesses communiquées par ses rêves aussi, donc des expériences de vie dans sa jeunesse qui ont marqué sa vie, qui ont été comme des précurseurs de son appel. Mais il a entendu ces messages-là jeunes. Et je vais parler un petit peu ce matin de certaines paroles ou certaines révélations de la part de Dieu dans ma jeunesse qui m'ont orienté sur mon avenir, justement. Et c'était quelque chose de profond. Et même, il y en a une qui m'est venue justement cette fin de semaine. Il y a 40 ans, là, je ne sais pas, j'ai pas l'air assez vieux là, pour ça, là, je comprends. Là. Il y a 40 ans, j'étais dans un camp de jeunes exactement comme celle-ci, là, celui-ci. Là. J'étais jeune étudiant à l'Université de Laval. Je faisais partie d'un groupe de jeunes universitaires, des navigateurs. Puis on avait des groupes d'étudiants dans différentes universités à travers le Québec. Puis on s'est réunis dans les Laurentides pour une retraite de jeunes, là. Et je faisais partie de ce groupe d'étudiants. Et me voici 40 ans plus tard, c'est moi le conférencier, là. Et je dis, waouh, Seigneur, c'est incroyable. Je ne savais pas que je serais un jour devant vous, là. Mais c'est comme si je voyais comment Dieu a tracé mon chemin jusqu'à aujourd'hui. Incroyable. Donc, une promesse que Dieu a plantée dans mon cœur. J'ai été touché cette fin de semaine-là. Je me souviens même de chaque message que j'ai reçu cette fin de semaine-là, il y a 40 ans. Et vous savez, c'était quoi le thème, là? Être flambeau dans le monde. Puis il a parlé de Barnabas, de Marie. Et je me souviens, il y a 40 ans plus tard, là, c'est encore dans ma mémoire, là. Et peut-être dans 40 ans, là, vous allez encore vous rappeler de la façon que Dieu vous a parlé cette fin de semaine. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Donc, soyons à l'écoute de Dieu. Et il va vous parler. Il est en train de semer des choses, de vous parler, de mettre des fondations dans vos cœurs et dans votre vie. La bénédiction et l'amour de Dieu, les faveurs de son Père. La troisième chose dans la vie de Joseph, là. On sait que son Père, il était mal, en tout cas, trop de favoritisme, n'est-ce pas, dans sa... Il aimait trop, mais pas qu'il aimait trop Joseph, mais il n'aimait pas suffisamment ses autres fils, là. C'est ça le problème, tu sais. On ne peut pas trop aimer nos enfants, là. Mais on peut tomber dans le piège du favoritisme, et on voit que son père a fait ça, mais quand même la façon que son père l'a aimé, que son père justement lui a montré son amour, ça, je pense que ça a donné quelque chose à Joseph. Ça lui a montré justement qu'il était précieux. Et je pense que c'est quelque chose qui a rempli le réservoir de Joseph là, dans ces moments d'angoisse, de savoir que son père l'aimait. Et ce n'est pas pour rien qu'il a demandé tout de suite à ses frères, « Est-ce que ton père est vivant? Parle-moi de votre père. » Parce que c'est mon père aussi. Et je l'aime, là. Donc, la bénédiction de l'amour de son père. Et j'espère que vous avez un père qui vous a aimé, là. C'est un don précieux, hein? Je vais vous parler tantôt de mon père à moi, là, qui m'a aimé, là. Puis quel don précieux ça a été pour moi d'avoir un père qui m'aime, qui est encore vivant. Donc, la quatrième chose, la résistance et la haine de ses frères envers lui, là, le manque d'appui. Donc, comment ça peut être une pierre de fondation, là? C'est bizarre un peu, hein? Mais jusqu'à un certain point, et c'est quelque chose que je veux vous souligner, que même les souffrances de notre vie, même les déceptions de notre vie, font partie de notre histoire, font partie de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et la haine et la violence même de ses frères envers lui faisaient partie de son histoire et faisaient partie de sa formation. Il fallait qu'il passe à travers cette expérience-là parce que il fallait que Dieu monte la température dans sa vie pour qu'il y ait une purification, pour qu'il y ait une sanctification dans sa vie, pour le préparer pour son avenir. Parce que ce n'était pas la première déception que Joseph allait vivre. Mais ça a été une grande déception, mais il va vivre d'autres déceptions. Puis il a appris à conjuguer avec les déceptions, avec ses frères, puis ça lui a préparé pour la résistance qu'il a confronté plus tard dans sa vie. Et vous savez que ce que vous avez vécu jeune, peut-être vous avez eu un héritage lourd. On a parlé de ça hier soir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour rien, là, que vous avez vécu ça, là. Et ça fait partie du projet de Dieu pour votre vie. Je ne sais pas encore comment, mais ça fait partie de qui vous êtes. C'est votre bagage, là. Et Dieu va se servir de cela pour vous former, pour vous préparer pour ce qu'il a pour vous dans votre vie. Et tout comme Joseph, il a été préparé avec ce traumatisme et cette déception-là. Il a été préparé pour ce que Dieu avait dans sa vie-là. Donc vous aussi, là, ce n'est pas pour rien que ces choses vous sont arrivées, là. Et ça fait partie de votre préparation pour ce que Dieu a pour vous, là. Amen. Donc, ce qu'on voit, si on regarde du côté du Nouveau Testament, regarde l'apôtre Pierre aussi, qui a une autre histoire fascinante dans la Bible. Peut-être que je vais demander à quelqu'un de lire ça pour nous, là, parce que ma voix n'a pas beaucoup de poids ce matin. Vas-y, quelqu'un. Oui, c'est ça. Et l'apôtre Pierre, c'est un autre personnage. On aurait pu passer toute notre fin de semaine là, à regarder l'exemple de l'apôtre Pierre aussi. Hein. Quelqu'un appelé, quelqu'un qui était tout feu, tout flamme, et puis qui est tombé souvent sur son nez, là, tu sais, mais que Dieu préparait aussi pour son appel. Et une vie qui a transformé le monde. Hein. Donc, toute sa capacité d'attraper des poissons, serait canalisé dans l'attrapage des hommes, là, tu sais. C'est quand même bien, hein? Donc, il a appris beaucoup de choses dans son métier, mais Dieu avait quelque chose de plus pour lui, là. Mais il y avait comme une préparation en tant que pêcheur. Mais Jésus dit, mais voilà, il y a quelque chose de plus que j'ai pour toi, là. Et donc, je pense que des fois, dans notre vie, on vit un certain niveau de bénédiction de la part de Dieu. Mais Dieu ne veut pas qu'on arrête là. Il y a quelque chose de plus. Cette bénédiction est un dépôt pour quelque chose de beaucoup plus grandiose que Dieu a pour nous, là. Donc, c'est quelque chose qu'on voit dans la vie de l'apôtre Pierre. Donc, découvrir mon projet de vie. Dieu plante dans nos cœurs, je pense que vous avez ça sur votre feuille aussi, de différentes manières, des semences, des promesses, des pierres de fondation qui nous parlent de notre appel, de notre raison d'être, du projet qu'il a pour notre vie. Et ces promesses sont plus grandes qu'une carrière ou qu'une réussite humaine quelconque. Ces semences nous appellent à notre destinée, à l'impact que nos vies peuvent avoir pour quelque chose de plus grand que nous. Donc, quelque chose de plus grand que nous, là. Donc, c'est comme si, voilà la bénédiction de Dieu, là. Notre vie est très médiocre, très simple, n'est-ce pas? On n'a pas peut-être beaucoup de talent, beaucoup de capacités humaines. Mais quand Dieu met son feu dedans, comme montrait notre sœur là, ce matin, là, quand le feu de Dieu est là, il y a une réaction nucléaire qui se produit là, tu sais. Donc, un atome a très peu de puissance, là, mais quand l'atome est brisé là, et multiplié, là, il y a une puissance nucléaire qui est libérée. Là. En tout cas, ce n'est pas une analogie parfaite. Là. Mais je pense que quand l'Esprit de Dieu tombe sur nous, c'est quelque chose d'exponentiel qui arrive dans nos vies. Ce n'est pas juste un peu plus. Là. C'est une multiplication de ce qu'on a comme notre vie. Regarde l'apôtre Pierre, c'était qui? C'était un pauvre pêcheur sur le lac de Galilée, là, tu sais, dans une province oubliée. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait avec Pierre? Qu'est-ce que Jésus a fait avec ces 12 hommes-là? Là? Quelque chose d'extraordinaire, inimaginable, quelque chose d'exponentiel. Et voilà, c'est un gage aussi de ce que va faire dans notre vie à nous. Mais comme je vous ai dit, là, le projet de Dieu pour notre vie n'est pas quelque chose de magique. T'sais? Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous est servi sur un plateau. Là. Et voilà le projet pour ta vie. Prends-la et entrez dedans, tout simplement. C'est un projet qui se développe et puis avec lequel nous devons collaborer, comme j'ai dit souvent. Et je vous donne différentes composantes du projet. Et vous avez ça sur votre feuille, mais j'ai rajouté une autre. Donc, il faut ajuster votre dessin un petit peu en faisant revue de mes notes. Là. Donc, puis on va réviser chacun de ces points-là, mais il y a des composantes dans notre projet de vie. Donc, le projet ne sera pas complet sans ces différents éléments-là. Donc, le projet de votre vie, ce n'est pas juste ton identité, ta raison d'être, mais il y a d'autres facteurs qui doivent être intégrés dans votre vie pour que votre projet de vie se réalise. Donc, on va regarder chacun de ces points-là. Mon identité, ma raison d'être, mes capacités, mon contexte, mes compagnons, ça c'est le point que j'ai rajouté là, mon caractère. Et tout ça, c'est comme les facettes peut-être d'un diamant, du diamant de votre vie, tu sais. Et toutes ces facettes-là ont besoin d'être développées dans votre vie pour que votre projet se réalise. Et donc, on va regarder à chacune de ces facettes-là, ces composantes. Donc, mon identité, mon appel et raison d'être, mes connaissances, mes compétences, mes capacités, donc, j'ai mis ça capacité, mais ça comprend mes connaissances et mes compétences, n'est-ce pas? Donc, le troisième point, on va regarder à ça. Mon contexte, ma localité, le parcours qui va me mener à ma destination. Donc, j'ai quand même un contexte réel avec lequel je dois conjuguer, là. Puis, je vais vous parler ce matin de notre Québec, là, ce qui est notre contexte. Et donc, on ne peut pas avoir un appel sans que l'appel soit enraciné dans un contexte. On va parler de notre contexte. Les compagnons de route. Donc, si tu veux aller vite, aller seul. Si vous voulez aller vite, aller seul. Mais si vous voulez aller loin, aller ensemble, n'est-ce pas? Partez ensemble. Donc, on a besoin des compagnons de route. Puis, mon caractère, le poids moral de ma vie, le dernier point, et moral et spirituel de ma vie. Donc, on va regarder si chacune de ces composantes-là font partie de notre projet de vie. Donc, on va creuser un petit peu dans chacun de ces points-là. Donc, commençons avec notre identité. Écoutez, je vous prie. Donc, regardons l'exemple de Joseph. Ce songe que j'ai eu, nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée, s'est tenue debout. Les vôtres sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Donc, mon identité, là, donc les rêves que Joseph recevait, c'était comme une fenêtre pour qu'il comprenne davantage son identité à lui. Et donc, quel était son nom? À qui il appartenait? Donc, toutes ces questions-là, quel est mon nom? À qui j'appartiens? Tout ça fait partie de notre identité. Donc, l'identité de Joseph était fondée, dans deux réalités. La réalité de l'appel de Dieu et la réalité aussi de l'amour de son père. Donc, ces deux facettes de son... On peut voir ça, ses rêves d'un côté et sa tunique splendide sur l'autre côté, là. Donc, il y avait l'appel de Dieu, l'affirmation de Dieu et la couverture et les bénédictions de son père. Et ces deux éléments-là fondait Joseph dans son identité. Là. Il savait qu'il était aimé de son père, puis il savait qu'il était appelé de Dieu. Puis il avait quelque chose de spécial, d'important pour lui dans son identité. Donc, l'amour de notre père compte, justement, dans notre identité, beaucoup. Moi, je dirais même le rôle du père dans la famille, c'est d'appeler les enfants à entrer dans leur identité. C'est que la maman, elle fait ça aussi, là. Mais c'est surtout le rôle du père. Parce que la maman, c'est surtout son rôle, elle est surtout celle d'alimenter, puis de compassion et de nous nourrir l'enfant. Donc, on voit l'image du sein puis du cordon ombilical. Là, c'est le rôle de la maman. Mais le papa, il ne peut rien faire là-dedans. Là, la maman, elle est liée émotivement, physiquement à ses enfants. Là. Mais que fait le père? Il est là, il observe. Là. Et là, moi, je ne peux rien faire là-dedans. Là. Changer les couches peut-être, là, mais pas beaucoup plus. Là, encourager notre épouse et dire la bonne parole au bon moment. Des fois, c'est bon aussi. Mais là, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il voit les enfants arriver. Il a dit, mais mon rôle à moi, c'est d'appeler cet enfant-là à devenir un être à part de sa maman. Un être qui a une identité propre, autre que sa maman. Pourquoi les jeunes garçons, dans les familles monoparentales, luttent tellement avec leur identité? Parce que le père n'est pas là pour appeler l'enfant à entrer dans son identité. On appelle ça la blessure du père. Et les filles aussi là, vivent cette blessure-là aussi, souvent. Pourquoi les jeunes femmes qui n'ont pas de père présent se retrouvent souvent dans les bras d'un garçon, d'un homme, qui risque d'abuser d'elles? Parce qu'ils n'ont pas eu cette sécurité des bras de leur papa. Là. Donc, le papa appelle l'enfant à entrer dans son identité et à devenir un être à part de cette relation, des fois étouffante, avec maman. Et c'est très, très, très important. Et vous voyez que les garçons, là, les jeunes délinquants, là, à 90%, là, le père n'est pas présent dans leur vie. Ils aiment beaucoup leur maman. Maman est là, mais le père n'est pas là. Parce que le père appelle l'enfant, le garçon, à établir dans une identité propre, là, dans son caractère, dans son identité, dans sa sécurité d'homme, là. Donc, c'est très important. Et on voit que Joseph était établi solidement dans son identité. Mais mon appel est ma raison d'être, le deuxième point, là. Mon appel est ma raison d'être. Je pense que, Jean-Marc, j'aurais besoin d'un autre verre d'eau, là. Merci. Donc, pourquoi je suis sur la terre? Donc, à qui j'appartiens? C'est la première question. Qui je suis, moi, là, dans la profonde de mon identité? C'est pour ça que mon papa est tellement d'importance, mais mon contexte familial est important parce que là, c'est là où je suis établi dans mon identité. Mais mon appel est ma raison d'être, mais à quoi sert ma vie, là? Je suis fondé dans qui je suis, mais à quoi sert maintenant ma vie? Quelle est ma raison d'être? Et on voit que Joseph, dans ses rêves et tout ça, il avait vraiment un appel au leadership, n'est-ce pas? Un appel à être quelqu'un d'influence, là. Donc, on voit les gerbes qui se prosternent devant lui, puis on voit le deuxième rêve, c'était les planètes, là, les étoiles. Donc, je pense qu'il voyait un autre palier de son influence, tu sais, qui était plus grand que juste sa famille, là. Et donc, il savait qu'il avait quelque chose d'important, de plus grand, que Dieu avait en réserve pour lui. Et des fois, nos expériences de vie, de jeunesse, nous appellent à quelque chose de plus, là. Peut-être, quand nous étions ensemble, dans nos salles de classe, les gens commençaient à tourner vers nous pour diriger. Là. De façon naturelle, on prend la place d'influence avec nos amis. C'est quoi ça? Ça fait partie de la façon que Dieu nous a câblés. On a peut-être un appel à leadership, au leadership, à l'influence. Et mais ces expériences d'enfance servent aussi de préparation ou de semence pour nous aider à comprendre un peu notre rôle dans notre vie. Donc, je vais vous parler justement de trois inspirations pour notre raison d'être. Et la première inspiration pour discerner notre raison d'être, on peut appeler ça une inspiration qui vient de la bonté. Donc, ça c'est l'appel de la compassion. Donc, nous voyons peut-être une injustice dans le monde, nous voyons la souffrance dans le monde, et il y a quelque chose qui est alimenté dans mon cœur. On dit, moi, je veux combler ce besoin-là. Moi, j'ai un cœur rempli de compassion pour ce besoin-là dans le monde. Ça me rejoint là, dans le profond de mon âme. Et vous ressentez qu'il y a un appel sur votre vie qui est inspiré par la compassion, par le brisement que tu vois autour de toi. Donc, il y en a qui sont appelés justement par le chemin de la bonté. Vous désirez avoir un impact pour votre vie, justement, sur les besoins autour de vous. Donc, une inspiration de la bonté. Une deuxième inspiration, c'est l'inspiration qui vient de la beauté. Donc, on peut appeler ça l'inspiration esthétique. Donc, ça, c'est quelqu'un qui vit une expérience qui le transporte dans son cœur et dans son âme, dans son imaginaire. C'est quelqu'un qui est appelé peut-être, moi je dirais, je vois ça c'est l'appel de l'adoration et de la créativité. Il y en a qui sont appelés par l'adoration et par la créativité. Ils veulent créer quelque chose. C'est un peu des rêveurs un peu. Ils ne sont pas très pratiques, là, terre à terre, ces gens-là. Là. Ils sont un peu comme Joseph, il était un rêveur. Là, tu sais, quelqu'un qui vit un peu dans les nuages. Là. Mais c'est des adorateurs. C'est des gens, c'est des artistes. C'est des gens qui sont câblés autrement, là. Mais c'est des gens qui vont inspirer, c'est des gens qui vont nous amener dans l'adoration, qui vont nous diriger vers des œuvres créatives, là. Mais c'est des gens qui sont appelés, c'est l'appel qui vient de la beauté. Donc, il y a une troisième appel, source d'inspiration, c'est l'appel de la vérité. Une soif de connaissance, une soif de découverte. Un appel à la vérité, un appel à devenir un formateur, à devenir un bâtisseur de vie, quelqu'un qui est appelé à former les gens, à investir dans la vie des gens. Mais ces trois appels-là ne sont pas forcément distincts les uns des autres. Il y a un chevauchement là, entre les appels. Là. Mais moi, je dirais que quand vous pensez à votre appel à vous, là, il y a surtout un de ces trois appels-là qui vous inspire plus que les deux autres. Et tu auras peut-être un appel première et un deuxième appel de soutien, là, tu sais, source de soutien dans votre appel à vous. Et c'est en écoutant ces appels-là, moi je ne savais pas, par exemple, que j'avais, mais j'ai un appel à la vérité au niveau de l'enseignement, mais j'ai constaté depuis une quinzaine d'années là, que j'ai un appel à la beauté de façon extraordinaire. Et que je suis inspiré par la poésie. Il y a quelque chose de profond que Dieu a allumé dans mon cœur par rapport à la beauté, par rapport à ma raison d'être. Au niveau de la poésie, au niveau de la créativité, donc quelque chose que Dieu a révélé en mon cœur qui vient par la voie de la beauté. Donc pensez à votre vie à vous et je vous propose qu'il y a une de ces voies-là qui est vraiment importante pour vous. Là. Puis en écoutant cette voix-là, en faisant le bilan de votre vie, vous allez pouvoir discerner l'appel de Dieu qui vient par une de ces voies-là. Ça va? Donc, mes connaissances, mes compétences et ma capacité. Prochain. Et on n'a pas besoin de trop parler de cela, mais... C'est un peu comme un joueur de hockey, là, tu sais. Peut-être, tu sais, Henri Richard vient de... Les vrais Québécois parmi nous, là, ils savent c'est qui Henri Richard, là. Vous les néo-Québécois, vous ne savez peut-être pas c'est qui Henri Richard, là. Mais c'est un joueur de hockey, là. Il y avait Maurice et Henri. Henri était le petit, puis Maurice était le grand, tu sais. Mais il vient de mourir, là, cette semaine, là. Puis si vous écoutez la radio québécoise, là, on ne parle que de ça. Mais un joueur de hockey, là, si ton nom est Richard, peut-être Henri Richard était ton grand-papa. Donc, tu es né, tu dis, waouh, j'ai tout un héritage, là. J'ai dans mes gènes, là, de la capacité de jouer au hockey, là. Mais si vous ne pratiquez pas, toute cette capacité-là est foutue, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir des gènes, l'appel est là, mais il faut développer cet appel-là. Il faut, par la pratique, par la discipline, vous cultiver ce que Dieu a semé dans vos cœurs. Donc, la même chose pour nous, par rapport à notre appel et notre raison d'être. Dieu sème dans nos cœurs un appel, il nous ouvre une voie, mais il nous appelle aussi à la formation, il faut chercher et développer et parfaire nos compétences et nos connaissances, nos capacités. Si vous êtes appelé, par exemple, vous avez un appel au niveau de la beauté, au niveau de la créativité, alors développez votre talent musical, développez votre talent artistique, trouvez des mentors qui vont vous inspirer dans votre chemin-là. Trouvez des poètes qui vous inspirent, mémorisez leur poésie. Donc, développez cette capacité que Dieu a mis en vous, là. Poursuivez l'appel que Dieu vous lance. Développez ce que Dieu sème dans vos cœurs. C'est ce qui est important. Donc, vous avez un appel. Donc, maintenant, alimentez cet appel-là avec vos connaissances et développez vos compétences. C'est très important. Prochain, mon contexte, ma localité, le parcours de vie qui va mener à ma destination. Donc, tout appel a besoin d'un contexte. Il faut faire valoir l'appel dans un contexte précis, là. Un appel a besoin d'être valorisé dans un contexte quelconque. Et moi, je sais de quoi je parle parce que pour moi, le contexte, c'est la francophonie. Et Dieu m'a montré clairement là, que c'était la francophonie, là, tu sais. Et un gars de l'Ouest canadien là, qui grandit sur les plaines de l'Alberta, là. Et qu'est-ce qu'il fait ici, là, en parlant français comme ça, là, tu sais, c'est une drôle d'affaire, là. Mais ça fait partie de l'appel, là. Mais il fallait que je... Même si Dieu a mis dans mon cœur cette capacité de parler français, il fallait que je l'apprenne, hein. Il fallait que je l'étudie, hein. Il fallait que je développe mes compétences. Mais il fallait que je sois également ici, là. Il fallait que je vienne au Québec, là. J'aimais les francophones de loin, mais il faut les aimer de près. L'amour au loin, là, c'est pas très pratique, hein, n'est-ce pas? Et il faut quand même avoir cette proximité-là. Il faut avoir une localité. Donc, ton appel à toi va imposer aussi une localité sur toi. Donc, si Dieu t'appelle si l'appel est suscité par la compassion, vous avez un appel qui vous suscite à servir un besoin quelconque, alors il va falloir que vous vous mettiez là, auprès des gens. Il va falloir que vous développiez des outils ou de la formation qui va vous aider à servir les gens de façon pratique dans leur milieu, là. Donc, c'est quelque chose au niveau de la localité, là, que Dieu nous met à cœur. Et là, vous êtes... le contexte pour Joseph, c'était où, là? Le contexte, c'était l'Égypte, un pays étranger. Quand je regarde vos visages, là, vous êtes presque tous en Égypte, là. N'est-ce pas? Vous êtes presque tous en Égypte. Mais pourquoi Dieu vous a amené ici, là? C'est peut-être pour prendre soin de ta famille qui est au loin, là. Mais peut-être le projet de Dieu pour ta vie, c'est pas juste pour sauver ta famille, mais c'est pour sauver aussi toute l'Égypte aussi en même temps. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Que Dieu vous a amené ici, non seulement pour votre famille, là, mais pour les Québécois aussi. C'est un défi, hein? Et vous savez qu'un des pièges dans lesquels tombent les néo-Québécois, là, c'est qu'ils aiment beaucoup leur propre communauté, là. N'est-ce pas? Leurs propres églises ethniques, l'adoration haïtienne, africaine. Tu sais, là, ça fait tellement du bien de parler en créole, là, tu sais, ensemble, là. Et je sais parce que j'ai été invité comme prédicateur dans une église haïtienne à Montréal, là. Ils étaient 600 personnes là, dans l'église. Là. Puis je voyais un autre visage blanc à part le mien. Puis c'était un visiteur. Mais pourtant, ils étaient au cœur de Montréal, là. Mais tu vois un peu le défi qui est là? Pourquoi les Haïtiens sont là? Juste pour servir les Haïtiens? Pourquoi Dieu a amené Joseph en Égypte, là? Ce n'était pas juste pour sa famille à lui. C'était pour tout l'Égypte. Donc, quand je pense à ça, je dis, waouh! Mais vous savez, là, une chose qui m'est venue à l'esprit quand je pensais ça, là. Il y a une famine qui s'en vient, là, qui est là, là. Une famine spirituelle au Québec. Et nos greniers sont pleins. Et quand les Québécois viennent vers nous, là, il faut être préparé pour ouvrir nos greniers, là, pour partager les bénédictions spirituelles que Dieu nous a données. Amen. Et c'est votre responsabilité, là. C'est notre responsabilité. Nous sommes venus en Égypte, là, pour les Égyptiens. C'est quelque chose, hein. Quand j'ai pensé ça, j'ai dit, waouh, ce contexte est important. Le Québec est cher au cœur de Dieu, là. Et ce n'est pas juste pour vous et votre famille que vous êtes là, là. C'est vraiment pour le Québec. Est-ce que j'entends un amen, là? Amen. Mes compagnons de route. Ah là là, vous n'arrivez. Et vous savez, j'ai un ami qui a fait un sondage auprès des missionnaires qu'il a beaucoup admiré. Donc, il a fait le bilan un peu des missionnaires dans le monde qui avaient fait tout un impact, qui avaient eu tout un impact. Puis, il leur a demandé la question, qu'est-ce qui vous a aidé à vous rendre jusqu'à là? Puis, il y avait différents facteurs, mais le facteur constant dans toutes leurs réponses, c'était leurs compagnons de route. Ils avaient des collègues qui ont des gens qui étaient animés du même esprit qu'eux, qui les ont accompagnés tout au long. Donc, si nous allons voir notre projet de vie se réaliser, il faut avoir autour de nous les gens qui nous soutiennent, les gens qui cheminent avec nous. Là. J'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, hein, l'histoire. Là. Puis, Frodo, là, il avait tellement besoin de Sam, hein? Puis toute l'équipe là avait son rôle. Chaque membre de la communauté avait son rôle. Tu sais, les 9 là étaient là. Et nous là, nous avons une mission qui nous est confiée là, mais on a besoin de nos compagnons de route. Amen. Donc, mon caractère, le poids moral et spirituel de ma vie, je vous ai parlé de hier matin, là, de votre écologie là, morale. Et ça, c'est un peu plate, tout ça. Là. Tout ce qui s'apprend pour développer une discipline de vie, la santé, le développement du caractère, les bonnes habitudes, la santé physique, le cheval, non seulement le cavalier, tu sais. Tout ça, là, c'est, on aimerait juste vivre... Puis manger la pizza à 11h en soirée, là, puis, tu sais, là, dormir quand ça me tente, oublier le cheval. Mais là, si vous oubliez le cheval, là, le projet de vie, là, c'est foutu, hein. Et si vous oubliez le cavalier, si vous oubliez le chemin de restauration, si vous ne prenez pas le chemin de restauration, si vous ne faites pas face aux blessures qui vous tracassent, là, vous ne verrez pas le projet de vie se réaliser. Donc, vous avez du travail à faire. Là. Et tout ça, c'est les facettes de votre projet de vie. Là. Vous êtes avec moi, là? Donc, je ne voulais pas vous donner une image rose là, de tout ça. Là. C'est, ça va prendre... C'est un chemin, là, c'est du travail, ça. Là, pour voir le projet de ma vie se réaliser. Et voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Donc, je veux vous laisser ce matin une autre approche, peut-être plus simplifiée un peu, qui touche un peu les mêmes points. Puis j'appelle ça la triangulation. Là. Je suis pas fort en communication. Là. Peut-être si j'avais un ingénieur ici qui pourrait nous expliquer ça davantage. Là. Mais vous savez, quand vous prenez votre téléphone cellulaire, là, comment il sait où je suis là? Ça prend toujours la triangulation. Ça prend le contexte où je suis moi, puis ça prend au moins trois pôles, tu sais, comment on appelle ça, là, les stations, là. Oui, c'est ça. C'est quoi le nom pour ça? Stations de base. Ça prend trois stations de base, là, puis ensemble, ils arrivent avec la triangulation, ils savent où je suis, là, donc je suis là au milieu, là, tu vois? Et moi, je trouve que la métaphore est bonne. Et pour nous aussi, pour qu'on se situe dans notre projet de vie, il faut être à l'écoute de ma vie à moi, de la façon que Dieu m'a, de mon appel, ma raison d'être, la façon que Dieu a, ce que Dieu a semé dans ma vie. Il faut être à l'écoute de mon Dieu, de sa parole, de la façon qu'il m'a parlé, de l'Esprit de Dieu qu'il a mis dans mon cœur. Puis il faut être à l'écoute de mon contexte aussi. Et quand j'écoute ces trois stations de base, je peux m'orienter dans mon projet. Je peux trouver cette orientation nécessaire pour avancer dans mon projet de vie. Donc, parlons de ces trois choses-là. L'écoute, les trois prochaines diapos, là. Donc, on a premièrement l'écoute de Dieu par sa parole et son esprit. Nous avons deuxièmement l'écoute de ma vie, de ta vie, et l'écoute de mon temps et de mon contexte. Donc, le contexte est une chose, mais aussi le timing, là, le temps dans lequel je suis. Et on voit pour Joseph, le temps est important, n'est-ce pas? S'il avait été libéré plus tôt de la prison, il n'aurait pas entré dans le temps, dans le timing parfait de Dieu, tu sais, pour lui, là. Donc, il faut discerner aussi notre temps. Donc, je veux vous parler justement de cette triangulation de ma vie à moi. Peut-être que vous allez trouver certains points de repère aussi pour votre vie à vous. Donc, premièrement, je vais vous servir de quelques images. Je suis un gars qui est très visuel. Donc, je vais vous montrer quelques images qui vous parlent justement de ces trois stations de base dans ma vie à moi. Donc, la première image que je vous donne, donc l'écoute de Dieu. Je commence avec l'écoute de Dieu, puis je vous montre cette photo-là. Puis je vous raconte une petite histoire. Quand j'étais enfant dans le petit village à Wimborne, là, au centre de l'Alberta, un petit village de 100 habitants, avec une église implantée par deux femmes, n'est-ce pas? N'oubliez pas l'histoire, qui était là. Et là, il y avait une autre église, déjà abandonnée, dans le village. Et cette église-là, à cause qu'elle était abandonnée, moi et mon ami, on s'est dit, mais je pense qu'on peut forcer la porte un petit peu et puis rentrer dedans. Il n'y a personne dans cette église-là. Donc, nous, on s'amusait, on avait 7 ans, 8 ans, on s'amusait à forcer la porte puis à rentrer dans l'église. Puis dans l'église, sur le mur, était ce tableau-là. Et là, on jouait là. Mais sous le regard de ce tableau-là, je pense que j'avais peut-être un remords de conscience un petit peu, là, d'avoir forcé la porte et tout ça. Mais en tout cas, mais j'étais là, puis j'étais sous le regard de ce tableau-là. Puis souvent, je levais mes yeux pour voir. Et je trouvais ça intéressant. Puis je savais que c'était Jésus, là, même si je ne connaissais pas Jésus là, à l'époque. Là. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le marin là, qui est là, puis Jésus est en train de diriger là. Mais j'ai oublié un peu ce tableau-là. Mais ce qui est arrivé quand j'ai prié pour donner ma vie au Seigneur, j'avais 8 ans, quelques années, peut-être un an plus tard que ça, la petite église d'Alliance qui était dans le village a dû louer cette vieille église-là vide parce qu'il y avait trop de jeunes dans l'autre église. Là, t'sais. Puis on louait cette église-là, puis nous étions assis là dans cette place où j'avais forcé la porte. Et le monsieur, il donnait l'étude biblique et j'ai compris finalement qui était Jésus. Et j'ai arrêté le monsieur. J'avais 8 ans là. Mais j'ai dit, l'appel de Dieu sur ma vie. J'ai arrêté le monsieur, j'ai dit, mais comment moi je peux avoir Jésus dans ma vie là? Et on s'est mis à genoux là, je me souviens très bien, il y avait un vieux banc d'église là, tu sais. On s'est mis à genoux là pour prier, donner notre vie à Jésus. Je ne sais pas si mes amis étaient sérieux, mais moi, j'étais sérieux. Et derrière moi, là, ce tableau était là. Derrière moi. J'ai oublié ça, le tableau, là. Presque 20 ans plus tard, 17 ans plus tard, mon épouse et moi, on part dans une retraite spirituelle pour les jeunes couples. Je rentre dans l'entrée de ce centre de retraite-là en Ontario, là. Et je vois ce tableau. Je vois ce tableau-là. Et mon cœur était saisi, là. Et je dis, Jésus, tout au long de ma vie, tu as eu la main sur mon épaule. Tu m'as dirigé, là. Ta main est encore sur mon épaule, en train de me diriger, là. Et encore aujourd'hui, là, sa main sur mon épaule, là, en train de me diriger. Donc, l'écoute de Dieu, importante. Deuxième photo, là. Ah! Ça, c'est mon patelin, là, comme on dit un bon Québécois, là, tu sais. Ça, c'est mon pays, ça. D'où je viens. Ça, c'est ma chambre, là. Mais vous savez, qu'est-ce qui est arrivé dans cette chambre-là, là? C'est là où j'ai appris à prier, là. Quand j'ai reconsacré ma vie au Seigneur, quand j'avais 14 ans, là. Et dans cette chambre-là, là, j'avais ma Bible. J'ouvrais ma Bible. Je mémorisais les versets bibliques, là. Je me mettais à genoux, puis je priais, là. C'est là où j'ai appris à prier, là, dans cette chambre-là. Et là, j'ai levé mes yeux, puis je regardais la prairie devant moi, là. Et mon imaginaire a été ouvert à tout l'horizon, à tout le plan de Dieu qu'il avait pour moi commençait à s'aimer dans mon cœur. Et c'était intéressant, je me souviens très bien aussi, j'ai prié pour la Chine, là. J'ai prié pour la Chine, là, quand j'avais 15 ans, j'ai prié pour la Chine, parce qu'en 75, là, la Chine était les ténèbres totales. C'était la fin de la révolution culturelle en Chine, là. Puis personne n'entendait rien de la Chine, puis on savait que ça allait mal en Chine, là, la persécution et tout, là. J'ai prié pour la Chine, là. Et j'ai prié encore pour la Chine, là. J'ai un fils qui habite en Chine, là. Et tout ça, dans cette chambre-là, là. En tout cas, ça me parle, là. Le prochain dépôt, là. Ah! Ça, c'est mon lever de soleil, là. C'est le mien. Peut-être pour vous autres aussi, là, mais ça, c'est pour moi, là. Mais là, c'est tout près de chez moi, là, maintenant, là. Et je prends mon vélo le matin, puis je me rends là. Et en été, c'est compliqué parce qu'il faut être là pour 5 heures, là, pour voir le soleil se lever, là. Mais des fois, je suis en retard, là. Mais voilà que Dieu ouvre l'horizon de ma vie aussi. Donc, c'est avec ce lever de soleil-là que Dieu alimente cette dimension de créativité, de beauté dans ma vie qui inspire mon imaginaire, mon adoration est alimentée par le lever de soleil. Mais pourquoi j'aime tellement ça? Parce que ça me fait penser quand même aux grands espaces dans l'Ouest canadien. Tu sais, c'est semblable. Là. Ça, c'est le lac, là. Mais j'aime tellement voir les grands espaces et tout ça. Ça me parle profondément. Donc, l'écoute de Dieu est importante. Donc, l'écoute de ma vie, la prochaine diapo, là. L'écoute de ma vie, là. Ça, c'est mon papa. Ça, c'est mon papa. Et ça a été pris juste l'été passé, là. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné un papa qui m'a aimé, là, qui m'a fondé dans mon identité. Je vous raconte une petite histoire de mon papa, là, pour montrer un homme humble, un homme qui nous a aimés, même s'il n'était pas encore dans le Seigneur dans ces années-là, là, qui croyait en nous, là. Puis, le jour de mon ordination, en 87, il est là. Il vient de l'Ouest canadien pour être là avec nous, là. Et juste la façon que Dieu nous parle par nos vies. Hein. Puis il s'élève pour parler, là, mon père. C'est un homme qui n'a pas beaucoup d'éducation et tout, là. Il s'élève pour parler. Il dit, puis quand tu donnes un fils, quand tu donnes naissance à un fils, tu mènes un fils au monde, tu espères que par ta vie, grâce à ta vie, il sera un meilleur homme. C'est ce que tu espères. Et voilà ce que dit mon père, là. Il dit, mais pour moi, c'est différent. Moi, je suis un meilleur homme à cause de mon fils. C'est pas incroyable, là? Ça, c'est mon père. Et je constate, wow, quel héritage mon père m'a donné, là. De m'aimer comme ça, là. De croire en moi, là. C'est un héritage aussi que je veux donner à mes fils à moi. Donc, l'écoute de ma vie, les prochaines diapos, ça, c'est une de mes belles filles, là, Emmanuel, là. C'est tellement drôle, là. Hein? Elle s'appelle Emmanuel et mon fils s'appelle Joshua. Donc, Emmanuel, Dieu avec nous. Joshua, c'est le mot hébreu pour Jésus, n'est-ce pas? Dieu sauve. Mais pourtant, ils sont pas dans le Seigneur, ni l'un ni l'autre, là. Mais leur nom, là, tu sais, leur nom, c'est l'appel de Dieu sur leur vie. Et je prie parce que un aspect de mon appel, la façon que Dieu m'appelle, c'est que je n'ai pas eu de fille, mais Dieu m'a donné la promesse qu'il va se servir de moi pour toucher le cœur de beaucoup de filles, là. Donc, incluant Emmanuel, prions pour elle, s'il vous plaît. Donc, l'écoute de ma vie, une prochaine diapo, au niveau de la communication, j'ai cette capacité de parler français. D'où ça vient? Je ne sais pas. Aussi, le désir de communiquer la parole de Dieu dans d'autres cultures et tout ça, ça fait partie de la façon que Dieu m'a câblé aussi. Mais l'écoute de mon contexte, le Québec, là. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai compris à quel point le Québec est devenu mon pays, là. Quand je suis reparti dans l'Ouest canadien, quand j'avais, en 2001, pour enseigner dans l'école biblique là-bas, en Alberta, d'où je viens, sur les prairies, là. Mais j'étais là-bas, puis la première image que Dieu m'a donnée, c'était « je suis en exil ». Donc, j'ai quitté mon pays, le Québec, là, et je suis reparti en Alberta, et j'étais en exil. Et 7 ans plus tard, là, il fallait que je revienne. Il fallait que je revienne en francophonie, là. Et ma vie est ici, là. J'ai adopté l'Égypte, là. C'est mon pays, là. Je suis là. C'est mon contexte. Et je pense que si... Comment je peux aimer les Québécois? Parce que je suis maintenant Québécois, là. Je le suis, là. Là. Tu sais, je le suis. Mon contexte aussi, là, prochain dépôt, là. Moi, je dis, maintenant que j'ai franchi les 60 ans, je dis, mais maintenant, je suis très conscient que c'est le temps de préparer la prochaine génération, là. C'est le temps d'investir ma vie en vous, là. Pourquoi je n'ai pas hésité quand Joël m'a parlé de cette possibilité-là? Parce que je dis, mais c'est pour ça que je suis là, là. Là. Je suis là pour vous, là. Je suis là pour vous inspirer à entrer dans le projet de Dieu pour votre vie, parce que l'Égypte a besoin de vous, là. Amen? Parce que vous avez, les greniers sont pleins, là. Et le Québec est en famine spirituelle. Et vous avez les richesses dont le Québec a besoin, là. Donc, il faut se préparer pour ça. Donc, voici mes étudiants. J'enseigne à l'ETEC, à l'école biblique, et différentes, les Haïtiens, les Africains, les jeunes, les moins jeunes, les grands, les moins grands. C'est bien à côté de moi, là, tu sais. Franchement, là. Il est plus grand que moi, puis moi, je suis 8 pouces là, plus haut là, que lui. Là. En tout cas, c'est incroyable. Mais c'est des gens, c'est des Camerounais, c'est des Haïtiens, c'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est des Québécois. Mais ça, c'est, vous êtes l'Église, vous êtes la famille de Dieu au Québec maintenant. Mais c'est à vous maintenant de prendre cet appel au sérieux, de servir le Québec pour la gloire de Dieu, de voir l'Évangile pénétrer dans cette province avec puissance. Là. C'est votre contexte, là. C'est mon contexte à moi. Mais comment Dieu nous interpelle avec ces contextes-là? Quel est mon appel ici? Quelle est ma place ici? Comment je peux servir le Seigneur ici? Donc, c'est une question que je vous encourage à mettre devant le Seigneur dans la prière, comme moi je le fais, moi aussi. Donc, voilà la triangulation, là, l'écoute de Dieu. Donc, juste pour terminer, les 3 questions, vous les avez? Sur votre feuille aussi. Quelles sont les expériences et antécédentes marquantes dans ta vie qui pourraient indiquer que Dieu te prépare un certain projet. Donc, l'écoute de ta vie. Comment Dieu s'est-il révélé à toi? Deuxième, quels sont les rêves, les promesses ou paroles qui ont marqué ta vie qui pourraient indiquer un projet qu'il a en réserve pour toi? Quand tu regardes autour de toi, dans ton contexte, ou quand tu lèves les yeux pour regarder notre monde et ses multiples besoins, qu'est-ce qu'il y a qui te fait pleurer ou frapper la table? Comment Dieu t'a-t-il préparé spécifiquement pour un tel projet de vie? Donc, pour ces questions, je vous encourage à mettre ces questions-là devant le Seigneur dans la prière, puis à former aussi des groupes, n'est-ce pas? N'oubliez pas les compagnons de route, n'est-ce pas? Qui peuvent vous aider à discerner l'appel de Dieu sur votre vie. Et prions ensemble, Seigneur, qu'est-ce que... Nous sommes ici en Égypte, là, mais qu'est-ce que tu as pour nous, ici? Comment nous pouvons servir ces gens autour de nous? Donc, merci. Merci d'avoir cheminé avec moi.